Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Jacques Saada, qui nous parle de son roman « Du jasmin à l'érable » qui vient de paraître chez Balzac Éditeur. Bonsoir honorable, est-ce que c'est comme ça qu'il faut dire ?
Oh Jacques Saada, ça suffira, c'est très gentil.
Alors on va expliquer pourquoi, hein, parce que vous avez un certain nombre de casquettes, vous avez vécu 10 vies en une, vous avez été enseignant, administrateur scolaire, linguiste, traducteur, dirigeant d'entreprise et d'organismes à vocation communautaire, conseiller en développement international, auteur... homme politique, vous êtes le premier juif séfarade élu au Parlement canadien et le premier à avoir occupé des fonctions ministérielles. Grâce à cela, vous avez reçu le titre de conseiller privé du roi pour le Canada et c'est pour ça qu'il faut vous dire honorable.
Mais à vous entendre, je me sens vieux.
Oh, pas tellement. Hein. Et alors, vous avez, il faut dire aussi, hein, vous avez reçu plusieurs distinctions. On vous a confié des fonctions parlementaires ou diplomatiques prestigieuses et vous êtes actuellement président du musée de l'Holocauste de Montréal et président sortant de la communauté séfarade unifiée du Québec notamment. J'ai envie de dire ouf.
Oui, comme vous aussi.
Alors, votre actualité qui nous vaut votre présence ici aujourd'hui, c'est la parution d'un roman autobiographique qui s'appelle « Du jasmin à l'érable ». Donc, il vient de paraître chez Balzac Éditeur et vous y retracez un parcours de vie riche et complexe. Vous racontez la vie d'un baby-boomer qui quitte sa Tunisie natale pour la France, un bref passage en Israël puis l'installation au Canada, où vous surmontez de nombreux défis pour construire une carrière diversifiée, on l'a vu, et élever une famille avec votre épouse Nicole. Fascinée par la politique, vous avez fini par devenir députée au Parlement canadien et occuper plusieurs postes ministériels. Alors c'est un livre qui se lit vraiment facilement, on le dévore en quelques heures, il ne nous tombe pas des mains. Il y a beaucoup d'anecdotes. C'est bien écrit, hein, il faut le dire. Il y a beaucoup d'émotions. Moi-même, j'ai versé quelques larmes, je dois vous dire. Et sans doute en raison des résonances avec mon histoire familiale maternelle. Et finalement, c'est 75 ans d'un parcours marqué par l'amour du français, du sionisme et de l'humanisme que vous nous racontez. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce récit à ce moment-là précis de votre vie ?
Il y a plusieurs choses qui se sont combinées. D'abord, merci de me recevoir, c'est très gentil à vous. La première, d'abord, c'est que mes enfants ont insisté pour que je laisse quelque chose d'écrit de ce que j'ai vécu. Eux, ils l'ont vécu aux premières loges, mais les petits-enfants ne le vivront pas de la même façon, etc. La seconde chose, c'est que, je ne sais pas, mais il me semble qu'avec l'âge, il y a des questions qu'on aurait voulu poser à nos propres parents et grands-parents qu'on n'a jamais posées, et on regrette parce qu'il nous manque des éléments. Je voulais essayer de court-circuiter un petit peu ça, en mettant ça sur la table. Et puis, la troisième chose, vous savez, c'est Boris Vian qui a écrit, qui a parlé du cerveau comme d'un organe qui nous servait à nous prévoir sans vie. Je voulais donc court-circuiter cette possibilité-là aussi, en écrivant avant que ça s'en aille.
Alors, vous avez vécu plusieurs vies, hein, vous le dites. Oui. La première étape, c'est cette enfance en Tunisie. Quand on vous lit, on a l'impression que c'est idyllique, c'est touchant hein, de voir les mots que vous posez à ces impressions. Vous expliquez néanmoins que si votre famille a quitté ce pays, ce n'est pas de la crainte des dirigeants, mais de la rue, de la crainte de la rue. La formule est très forte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer et puis nous parler un petit peu de cette enfance et est-ce qu'elle continue de vous habiter aujourd'hui ?
Absolument. Notre identité, elle est faite de couches qui se superposent les unes sur les autres. Alors bien sûr, c'est la couche essentielle, c'est le fondement, c'est la racine. Quand j'étais en Tunisie, bien sûr, j'étais petit, donc la politique n'avait pas vraiment beaucoup d'impact sur moi, mais je me souviens de moments extrêmement heureux. J'en reparle un petit peu dans mon livre, des moments où on allait voir les résultats du foot le dimanche soir à la presse, où mon père et ma mère m'emmenaient attraper des papillons au Belvédère. Enfin, je me souviens des odeurs. Mon grand-père qui m'emmenait au marché... et qui ramenait avec le Hamel, ramenait avec nous les affaires qu'il nous laissait pour une bouchée de pain. Enfin bref, tout ça, je l'ai vécu. Et donc, à l'écart de la dimension purement politique des choses, Bourguiba avait une excellente réputation par rapport au monde juif en général. Je vous rappelle que, d'ailleurs, même ça, je l'ai appris beaucoup plus tard, bien sûr, mais Il avait pris des positions contre la Ligue arabe en faveur d'Israël, ce qui avait valu d'être ostracisé. Alors, mais la rue, elle, était conditionnée beaucoup plus par les événements, qu'il s'agisse de la création d'Israël, qu'il s'agisse de Suez en 56, etc. Et la rue est très difficile à contrôler parce qu'elle devient irrationnelle. Et c'est de ça qu'on avait peur surtout, je pense.
Alors j'ai envie de lire certains passages, mais je pourrais tout lire. Hein. Là, j'ai le livre sous les yeux. Vous parlez de votre maman comme une grande cuisinière qui donnait ses recettes, mais quand même pas trop. Hein, parce que, et puis c'était compliqué, hein, parce que tu mets un peu de ceci, un peu de ça. De ça, pardon, que veux-tu dire par un peu? Un peu, tu sais, pas beaucoup. Autant dire que la pkaïla, la mlouchia ou le psal ou l'oubia n'étaient jamais aussi bons que chez maman. La tchakchouka de maman, avec une baguette de pain frais, et le paradis était descendu sur terre. Et que dire de ces manicotis ou de ce fritège? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, comme vous l'expliquez, c'est que vous mêlez finalement de la politique avec un regard que vous posez avec celui que vous avez aujourd'hui, et finalement ces souvenirs d'enfant avec les fins de semaine à Mamlif, le village natal de votre papa, les mets que vous mangiez, les rencontres familiales, les rencontres peut-être aussi avec les autres musulmans, les souvenirs du train, de la plage, comment elle était. Et ça, c'est vraiment très enrichissant, et d'autant plus quand on a de la famille d'origine tunisienne. Alors, après cet épisode, il y a une nouvelle étape, c'est l'arrivée en France, qui est plutôt chaotique. D'excellent élève en Tunisie, vous devenez un cancre, pour pas dire autre chose. D'une vie confortable, vous passez à une vie faite de restrictions, voire de pauvreté, hein, à laquelle vous n'étiez pas habitué. Qu'est-ce qui se passe alors dans votre tête?
Tout se mélange. Tout se mélange. Je découvre des choses extrêmement négatives, comme l'antisémitisme, l'ostracisation. Je découvre ça à un âge où on a encore le sentiment qu'il n'y a aucune raison pour que les gens ne nous aiment pas. On passe tous par là, hein, on voudrait tous être aimés par tout le monde. Et on n'a pas encore la désillusion de l'adolescence ou de l'âge adulte. Et j'ai découvert tout ça. C'est arrivé surtout parce que je me suis retrouvé dans un milieu où j'étais le seul d'origine nord-africaine. C'était à l'époque, c'était le début. J'étais le seul juif, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que il n'y avait aucune raison. Je veux dire, je ne criais pas mon judaïsme partout, mais je m'en cachais pas non plus, mais je veux dire, il n'y avait aucune raison. Sauf qu'une fois, quelqu'un m'a parlé de sa première communion et du fait qu'il est obligé d'aller systématiquement à l'église. J'ai dit, moi, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Et pourquoi? Ben parce que je suis juif. Et puis là, ça a dégénéré. C'est des détails comme ça qui frappent une jeunesse. Et comme l'atmosphère générale était relativement négative, il se trouve que même les enseignants ou les surveillants ne manifestaient pas beaucoup de bienveillance à mon endroit. Et donc, comme je l'ai écrit, c'est là que j'ai appris l'injustice.
Et puis, il y a l'arrivée au Canada, oui. Sans diplôme ni relation initiale. Comment vous avez réussi à vous frayer un chemin dans une carrière aussi prestigieuse, à vous intégrer à la population canadienne avec le parcours précédent de la Tunisie et puis cette période française un peu compliquée, hein? Et pourquoi le Canada?
Alors, le Canada, parce que j'ai rejoint Nicole, qui m'a précédé de quelques mois. Et il n'était pas question qu'on reste au Canada. Et en fait, moi, je revenais d'un séjour en Israël. Son papa était un sioniste convaincu qui avait immigré en Palestine depuis la Roumanie natale. Donc, on avait des atomes crochus. Et elle a accepté un poste ici. Donc, il était question qu'elle passe son année, enfin ici, je veux dire, au Canada. Il est question qu'elle passe son année là, qu'elle revienne en France, et de là nous repartirions pour immigrer en Israël. C'était ça le plan. Mais tout a été chamboulé, je suis venu la voir pour les vacances de Noël et puis je suis resté.
Et alors au niveau professionnel, comment on gravit les échelons aussi facilement? Est-ce que c'était facile d'ailleurs?
Non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez, même si j'ai mis des limites, il y a le mektoub. Les choses s'alignent. En langage plus vernaculaire, on parlerait d'une analyse enlignement des astres. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. J'ai beaucoup travaillé. Et je me suis beaucoup investi sur le plan communautaire. Pas dans la communauté juive d'ailleurs, mais dans mon milieu géographique. Et ben, tranquillement, les gens ont découvert des choses que moi j'ignorais de moi-même. Et donc tranquillement, j'ai poussé un peu les choses. J'ai commencé à me faire élire à un niveau très local, à une commission scolaire, parce que là-bas on est organisé en commission scolaire, parce que je voulais redresser un tort où une candidate avait été battue parce qu'elle était noire, et je ne pouvais pas accepter ça. Donc je m'étais présenté contre le président lui-même sortant, et j'avais gagné. Donc c'est toutes ces choses-là qui se sont accumulées. Mais je pense que quand vous avez dit très gentiment que j'étais animé d'un humanisme fondamental, vous avez aussi parlé de nos origines en Tunisie et du fait qu'on côtoyait des gens différents de nous en Tunisie et qu'on y était bien. Ça a conditionné toute ma perception de l'homme en général, avec un grand H. Naturellement, spontanément, j'ai tendance à me dire que je fais confiance et ben, tant pis si je me trompe, je changerai d'avis. Et donc, faire confiance aux gens, ça veut dire les accepter comme ils sont. Et ça, je crois que ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup servi, dans le sens que, comme c'est naturel, c'était authentique, et les gens ont été attirés par ça. Et c'est ça qui m'a permis, effectivement, de me faire un nom sur la place publique.
Alors, il y a cette valeur hein, que vous venez d'expliquer, l'humanisme. Il y a aussi un amour pour le français, pour la langue française. Oui. Et puis, ce sionisme, vous y passez brièvement. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ces deux autres valeurs?
Le sionisme, d'abord, c'est le milieu dans lequel j'ai été élevé, dans lequel j'ai grandi, et dans lequel j'ai évolué, même une fois qu'on a quitté la Tunisie, etc. C'était le milieu très traditionnel, juif d'origine tunisienne, avec la sina le samedi, avec des traditions aussi bien culinaires que religieuses, etc. Enfin, d'une façon très, très, très modeste. Ça marque fondamentalement. Et j'ai grandi dans l'amour d'Israël. J'ai grandi dans cet amour d'une patrie qui nous rassemble, qui nous ressemble, et qui soit le reflet d'un idéal que je caressais à l'époque et que je caresse toujours.
Est-ce que les événements d'aujourd'hui, post 7 octobre, vous affectent?
Bien sûr, c'est évident. C'est évident parce que d'abord, la vulnérabilité qu'on a montrée est extrêmement inquiétante et il faut corriger ces choses-là, mais c'est même pas tellement ça, c'est qu'on a vécu en fait quelque chose que je ne connaissais que par les livres de la Shoah. On a vécu une horreur dont on pensait qu'elle était dépassée. Et on a vécu cette horreur-là commise par des gens dont la seule ambition est de nous éradiquer. On a vu encore, même très récemment, ce qui est arrivé avec les otages qu'on a retrouvés, etc. C'est d'une sauvagerie sans nom. Et je vais dire ça comme ça, ça ne rend pas service à la cause palestinienne. Ça ne rend pas service à la perspective d'une paix, quelle qu'elle soit, dans la région. L'ennemi, comme je l'ai vu et comme je le vois, ce n'est pas les Palestiniens, c'est le Hamas, c'est ce qu'on appelle l'axe de la résistance sous la direction de l'Iran, c'est l'islamisation. C'est là qu'est la menace. C'est pas la création d'un État palestinien qui est la menace. Et donc forcément, j'ai vécu tout ça un peu dans cette perspective-là. Et j'en veux à ceux qui ont fait ça de vouloir me cantonner à répondre par le racisme, à leur racisme à eux. Je refuse de faire ça. Je refuse de répondre au racisme par le racisme.
En a résulté, en Europe, en France notamment, une vague, une explosion même ouais. D'antisémitisme. Est-ce que c'est la même chose au Canada? Comment ça se passe depuis le 7 octobre?
Alors, le musée de l'Holocauste de Montréal procédé à une enquête publique, un sondage. Et on a constaté qu'en fait, il semblerait que les chiffres ne varient pas beaucoup par rapport à ceux que nous avions avant en termes de pourcentage d'antisémites potentiels. Mais par contre, on a constaté, comme ici, une recrudescence de la violence de la manifestation antisémite. Ça, c'était une chose qui est frappante. C'est comme si le 7 octobre avait ouvert la porte à un antisémitisme débridé, violent, ouvert et sans complexe.
Comment les pouvoirs publics luttent au Canada contre l'antisémitisme ?
Il faut dire qu'on a quand même beaucoup de chance au Canada dans ce sens-là. Les gouvernements ont été unanimes à condamner le Hamas. Vous savez que quand on fait l'inventaire des votes à l'Assemblée générale des Nations Unies, le Canada est le deuxième pays au monde derrière les États-Unis sur le plan d'appui à Israël. Il y a des lois très rigoureuses contre le complotisme, contre la propagation de la haine antisémite, etc. C'est pas encore suffisant, il y a toujours mieux à faire. Alors bien sûr, il y a des incidents graves, mais en même temps, on a on est un peu rassuré par le fait que tous les partis politiques, pratiquement, pas tous, mais presque tous, ont été, en tout cas les grands partis, ont été extrêmement forts et solidaires de la population juive du Canada.
On va revenir à votre livre, Du jasmin à l'érable. Est-ce qu'il faut dire un roman ou un récit autobiographique ? Ou un ouvrage, un livre ?
C'est une autobiographie. En fait, oui. J'en avais déjà fait une première. Mm-hmm. Et quand je l'ai relue après quelques temps, j'ai trouvé moins intéressante que quand je l'avais écrite. Et donc, je l'ai refaite en augmentant, parce qu'entre-temps, j'ai eu une responsabilité pour la communauté séfarade, ensuite pour le musée de l'Holocauste. J'ai pris de la perspective un peu sur certaines choses. Et je me suis penché sur une question qui m'intéresse beaucoup, 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 justement parce que je suis foncièrement sioniste et que j'ai horreur de l'injustice. Je me suis penché sur ce qui arrive aux Nations Unies. Et donc, ça transparaît un petit peu dans mon ouvrage. Cet ouvrage-là, c'est en fait une combinaison de choses très personnelles, de choses très politiques. Ce qui est personnel est subjectif. Ce qui est politique est recherché, donc les faits sont vérifiables, etc. C'est une autobiographie mise en contexte.
Alors, vous l'expliquez d'ailleurs dans l'avant-propos avec beaucoup d'honnêteté, que ce sont des mémoires revisitées par le temps passé et que peut-être tout n'est pas juste, mais en tout cas, c'est ce qui vous reste.
Oui.
Et j'ai trouvé ça très honnête de le dire parce que ce n'est pas toujours le cas.
Oui. J'ai pas de mérite, c'est comme ça que je l'ai pensé, c'est comme ça que je l'ai ressenti. D'ailleurs, c'est non seulement comme ça que j'ai ressenti, mais je vous raconte que, par exemple, quand j'ai écrit mon livre, mon épouse Nicole a relu mes textes 50 fois, avec d'ailleurs mes filles aussi ont relu ça, pour m'aider. Le titre de mon livre vient de ma fille aînée, c'est elle qui l'a créé. Et ma femme, en lisant mes textes, me disait « mais c'est pas comme ça que ça s'est passé ». Et alors, moi, mon souvenir, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors finalement, je suis obligé de dire, écoute, écris tes mémoires et je vais respecter ce que tu vas écrire. Moi, je vais écrire ce que je pense qui est arrivé. Et c'était bien sûr très, très, très chaleureusement fait et très sympathique. Mais non, je ne peux pas prétendre à une vérité absolue. Je n'ai pas la vérité absolue.
Je vais me permettre de lire l'incipit de votre livre parce que je trouve que ça donnera un aperçu aux auditrices, aux auditeurs de Radio Shalom de la qualité de votre écriture. Vous écrivez au commencement, quand la mémoire s'ébauche, elle s'imprègne du récit des autres. On vous répète la même histoire, tu n'avais même pas 3 ans quand. On finit par ne plus savoir si on se souvient du récit de l'événement ou de l'événement lui-même. Cette ambiguïté, c'est la première infidélité de la mémoire. La mémoire est faite d'infidélité. L'appartement où je suis née me paraissait si grand. Quand je l'ai revu pour la première fois après une quarantaine d'années, il avait tellement rétréci qu'il en était devenu minuscule. Je ne savais pas que papa, dont le caractère autoritaire était à la fois inquiétant et rassurant, était si fragile. Le temps avait progressivement fusionné les images. Raconter une vie, c'est évoquer des souvenirs que de bonne foi on croit précis. Mais comment peuvent-ils l'être ? Une conversation impromptue avec un vieil oncle quasi centenaire, une photo découverte dans une vieille boîte à chaussures ébranle nos certitudes. La vérité s'infléchit, se module. Le temps et la compréhension des choses de la vie donnent à ces souvenirs une teinte changeante. Il y a une impression que j'ai lue à vous lire. Vous parliez en introduction de la question de la transmission pour vos enfants et surtout vos petits-enfants. Cette impression que finalement... vous ne leur avez peut-être pas transmis les rites juifs, peut-être que je me trompe, hein, que vous avez reçus de votre famille, votre père notamment, quand vous étiez enfant. Est-ce que c'est une impression justifiée ?
Non, c'est juste. C'est juste, et peut-être c'est mon grand regret. C'est mon grand regret parce que je pense que j'aurais pu faire mieux en termes de responsabilité de transmission de nos traditions, etc. Mais vivant à Montréal, dans un quartier qui n'était pas un quartier juif, entouré d'une collection de communautés différentes dans lesquelles je m'épanouissais, j'ai pas éprouvé ce besoin fondamental. Ça m'est revenu plus tard. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, et j'en parlais avec des amis à Montréal, quand on m'a offert la présidence de la communauté séfarade unifiée du Québec, ça a été un magnifique retour aux sources pour moi. Et ce que j'ai pas pu transmettre ou ce que j'ai pas su transmettre, j'espère qu'au moins par cette expérience et le récit que j'en fais, il va pouvoir en rester quelque chose pour mes enfants.
Vous parlez de communauté séfarade, majoritairement au Canada, ce sont des Juifs d'origine marocaine, non ? Des Tunisiens, il y en a très peu.
Très peu. C'est surtout des Marocains. Mm-hmm. Il y a environ 24 000 Juifs séfarades à Montréal. Je parle de Montréal seulement. Oui. Enfin, le Québec, mais c'est surtout Montréal. Sur ces 24 000-là, il y a probablement environ de 92% qui sont des Marocains.
D'accord. Et donc ces traditions judéo-tunisiennes, finalement, elles sont très peu présentes au Canada.
Oui, mais elles se ressemblent beaucoup, vous savez.
Oui.
Il y a, d'ailleurs, on s'amuse bien parce que des fois, il y a des mots dont je me souviens qu'on les prononçait en arabe et puis ils ne les prononcent pas de la même façon. Alors, on se parle, ma fille a épousé, enfin l'une de mes filles a épousé un juif séfarade d'origine marocaine, donc avec les parents avec qui on s'entend bien, on en parle souvent, etc. Enfin, on s'amuse à se faire des comparaisons de prononciation. Mais il y a beaucoup, beaucoup de points semblables, beaucoup de points communs.
Vous avez traversé au cours de votre vie plusieurs contextes historiques, en Tunisie, en France, un tout petit peu en Israël et au Canada. Comment vous avez navigué entre ces transitions culturelles et qu'est-ce qui vous a été le plus difficile à surmonter ?
Ce qui m'a aidé le plus, c'est peut-être une chose, une qualité que j'ai, et j'en parle avec beaucoup de modestie, mais je m'adapte très vite, très bien et à beaucoup, beaucoup de circonstances différentes. Et ça a été une force, j'ai rien fait pour ça, je veux dire, elle m'est venue, j'ai pas de mérite, mais c'est pour ça que, par exemple, dans ma circonscription où j'ai été élu, où il y avait quelque chose comme environ 70 communautés culturelles différentes qui cohabitaient, je me sentais aussi à l'aise dans une activité de nouvel an chinois que dans une mosquée à aller fêter l'Eid al-Fitr et puis des trucs comme ça. Ça c'était quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. En ce qui concerne la plus grande difficulté, elle a été de traverser une espèce de premier rideau où on avait un préjugé par rapport à mon nom, par rapport à mes origines. Il a fallu surmonter ça. Mais une fois qu'on surmonte ça, ceux qui étaient hésitants finissent par être vos meilleurs appuis, vos meilleurs piliers, vos meilleurs ambassadeurs. Et c'est comme ça que c'est arrivé.
Et c'est comme ça aussi qu'on voit que votre livre est passionnant à lire, et notamment pour les jeunes générations, cette capacité d'adaptation, quels que soient les diplômes hein, que l'on possède, oui. C'est faire montre d'une grande intelligence.
Écoutez, c'est gentil de dire ça. Moi, je pense que c'est une question de survie. C'est-à-dire que l'être humain est fait de telle façon qu'il s'adapte à des circonstances extrêmement difficiles. Il y a toujours une façon de rebondir. Enfin, cette résilience-là, c'est un mot qu'on emploie beaucoup. Mais c'est une Boris Cyrulnik l'a développé de façon très très concrète et très intelligente et fine. Mais c'est la condition fondamentale de notre survie, c'est la résilience. Le peuple juif est bien placé pour le savoir. Tant de civilisations ont essayé de le détruire et nous sommes encore là.
Le livre s'appelle Du jasmin à l'érable, mais ça aurait pu être Du petit juif tunisien au ministre.
Oui. Vous savez, le titre de ministre, j'en suis très fier, bien entendu. Mais pour moi, ce qui était important, c'est pas le titre. Pour moi, ce qui était important, c'est que ça m'a permis de faire. Indépendamment de mes fonctions de parlementaire, etc. Mais j'ai pu montrer que c'était possible. Le plafond de verre a été cassé. Et je crois que c'est ça, ma plus grande fierté, c'est ça. Il y a une jeune femme juive, séfarade, qui a été élu au Parlement du Québec cette fois-ci. Moi, j'étais au fédéral à Ottawa, Parlement du Québec, et qui est devenu maintenant ministre au gouvernement du Québec. Elle a reconnu dans elle-même que j'avais ouvert la porte et de préparer le terrain pour une jeunesse qui peut s'affirmer en ayant des modèles. Je crois que c'est extrêmement important. Alors, je dis ça en toute modestie, bien sûr, mais c'est ce qui me rend particulièrement fier.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Jacques Saada, qui nous parle de son livre « Du jasmin à l'érable » qui vient de paraître chez le Balzac éditeur. Le temps tourne vite, j'ai beaucoup de questions à vous poser et je vais sans doute les limiter. Parler de questions de transmission, parler d'émotion. Vous décrivez vous-même ce livre comme une peinture d'émotion, de passion et d'humanité en dernière de couverture. Pour vous, quelles sont les émotions qui ont dominé durant les moments les plus cruciaux de votre vie?
Les émotions, c'est tout le temps qu'il faut avoir l'ouverture de les accueillir. Il n'y a pas d'émotion dont on doit avoir honte. Et on a beau avoir les responsabilités qu'on a, il n'y a aucune raison de ne pas croire en ce que nous faisons, de ne pas... Vous savez, le fait d'aider une dame qui vient vous voir avec un problème à régler pour des questions qui l'empêchent de dormir et qu'on règle ce problème-là, de voir cette dame-là heureuse, pour moi, ça me rend heureux. De voir, par exemple, que au sommet de la francophonie à Ouagadougou en 2004, il y avait une tentative de la part de certains pays de recréer d'urbain avec toute la question du racisme et d'antisémitisme, etc. Et que j'avais réussi, comme ministre de la francophonie, à empêcher que ça arrive et à bloquer cette résolution-là. Ça me remplit d'émotion aussi parce que ça me permet de dire j'ai fait ma part, j'ai fait quelque chose pour aider mes causes.
Vous l'avez dit, hein, vous avez fondé une famille nombreuse et unie, malgré des épreuves, peut-être parfois des drames. Comment vous avez réussi à maintenir cette unité familiale face aux défis que vous avez rencontrés?
Vous savez, comme on dit habituellement, il faut être deux pour danser le tango. Alors d'abord...
C'est Nicole.
Nicole, voilà. Et après ça, bah c'est les enfants eux-mêmes qui contribuent à ça. Je veux dire, vous savez, on ne peut pas contrôler la direction d'une vie. On a 12 petits-enfants, on ne peut pas contrôler la direction de 12 vies en plus des 4 enfants. Chacun fait sa part et chacun... Je crois que ce qui me frappe le plus... Et ce qui me rend le plus fier, c'est vraiment ces valeurs que nos enfants et petits-enfants transportent, tous, ensemble, chacun à leur façon. Où je me retrouve, où Nicole se retrouve, c'est ça, je crois, notre plus grande réussite.
Est-ce qu'il y a eu des moments, quand vous regardez en arrière, où vous avez douté de votre choix de vie, au niveau personnel ou professionnel, qu'est-ce que vous auriez refait ou pas?
C'est difficile de comparer une théorie à une réalité. Mm-hmm. J'ai eu beaucoup de chance dans la vie. J'ai été très heureux dans ma vie. Je suis super bien entouré dans ma vie. Pourquoi voudriez-vous que je cherche autre chose que ça? Non. C'est sûr qu'on se dit qu'on aurait peut-être pu, je ne sais pas moi, faire des choses différemment. Peut-être que, effectivement, mon regret de ne pas avoir transmis de façon aussi fidèle que j'aurais dû ces valeurs fondamentales du judaïsme, etc. Pas les valeurs. Les valeurs sont transmises. C'est les rites, c'est les traditions. Mais non, dans l'ensemble, je pense que... Vous savez, il y a une église tout près de chez nous et le toit tombait en morceaux. Puis je me suis battu pour réussir à ramasser ce qu'il fallait pour les aider. Et alors, bien sûr, un juif qui aide à construire, à refaire le toit d'une église... Il y a une mosquée pas très loin de chez nous, un centre communautaire musulman, et il y avait des problèmes énormes et on m'a demandé d'intervenir pour agir comme médiateur, ce que j'ai fait et on a fini par le faire. Et je regarde ces choses-là et je me dis c'est bien, c'est juste bien.
Quel est le message principal que vous aimeriez que les lecteurs retiennent de la lecture de votre livre du jasmin à l'érable, s'il y a un message?
Ce serait prétentieux de dire qu'il y a un message. J'ai exprimé des émotions, j'ai exprimé une histoire, j'ai mis ça dans un contexte politique très, très, très fouillé, très structuré. Mais en même temps, c'est rempli d'anecdotes qui m'ont comblé de bonheur. Quand on a réussi à sauver deux enfants qui allaient être victimes de guerre civile au Congo, ou quand on a réussi à retrouver le mari d'une famille, enfin d'une dame kosovare qui était venue en réfugié à Montréal, quand on a, je veux dire, non, il n'y a pas de leçon à tirer, il n'y a pas d'enseignement à tirer, il n'y a que l'expression d'émotions qui m'ont comblé.
Vous êtes de passage à Paris pour quelques jours. Vous serez notamment le mercredi 18 septembre à la synagogue du 11e du CJL, 10-12 rue Moufle, et vous y donnerez une conférence sur le thème « L'ONU favorise-t-elle l'antisémitisme ?» Et le public aura l'occasion à la fois de vous écouter, mais en même temps de se procurer une dédicace de votre livre. Pourquoi le choix de ce thème « L'ONU favorise-t-elle l'antisémitisme ?»
Vous savez, très peu de gens ont réfléchi au fait que les fondements même de l'ONU, c'est le Tikkun Olam, c'est la réparation du monde. Quand les Nations Unies étaient créées, c'était ça l'objectif principal. Or, l'ONU fait de magnifiques choses, sauf quand il s'agit d'Israël. Et il y a des injustices fondamentales, donc j'ai fait des recherches, non seulement l'Assemblée Générale, mais les agences, en parlant de... par exemple, l'UNESCO, en parlant du Comité des droits de l'homme, en parlant de UNWA, bien sûr, l'organisation d'aide aux réfugiés palestiniens. Il y a tellement d'injustices fondamentales que je ne pouvais pas rester silencieux. Je crois que c'est le rabbin Cook qui a dit « Je ne parle pas parce que j'ai la force de parler, je parle parce que je n'ai pas la force de garder le silence ».
Alors, on le rappelle, hein, c'est le mercredi 18 septembre à partir de 19h à la synagogue du 11e du CJL, 10-12 rue Moufle. Et puis, celles et ceux qui auraient envie d'acheter le livre en librairie pourront obtenir une dédicace en venant sur place ce soir-là. Il y a une question classique, mais non moins difficile pour conclure cette émission. Si, en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie à nos auditeurs de lire votre livre, qu'est-ce que vous leur diriez ? C'est pas facile.
Non, chaque vie est une histoire extrêmement riche. Chaque vie, peu importe quelle qu'elle soit, modeste ou prestigieuse. Je vous fais cadeau d'une partie de la mienne, en espérant qu'elle pourra vous intéresser.
Et c'est un beau cadeau, vraiment, c'est un plaisir de lire ce livre que vous avez commis, je rappelle le titre, du jasmin à l'érable, qui vient de paraître chez Balzac Éditeur, de Jacques Saada, honorable Jacques Saada, et c'est un livre dont je recommande vivement la lecture. Merci beaucoup.
Non, merci à vous, merci à vous
d'avoir accepté, hein, de répondre à nos questions, et j'espère à très bientôt sur l'antenne de Radio Shalom.
Avec grand plaisir, merci infiniment, merci beaucoup Sandrine.